Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Paris au XVIIIe siècle.
J'ai tant couru pour faire le tableau de Paris que je puis dire l'avoir fait avec mes jambes. Aussi ai-je appris à marcher sur le pavé de la capitale d'une manière leste, vive et prompte. C'est un secret qu'il faut posséder pour tout voir. L'exercice le donne. On ne peut rien faire lentement à Paris, parce que d'autres attendent.
Qu'il faille se presser, se garder à droite, à gauche, tout en guettant ce qui peut tomber des gouttières, on croit le savoir, pour l'avoir lu dans les livres. On entendait un extrait du tableau de Paris de Mercier. Mais comment pénétrer vraiment dans l'entremêlement des choses de la ville? Des choses qui peuvent être des objets, des repères, des animaux aussi. Les Parisiens de l'époque avaient un autre œil que nous. Un exemple, un accident banal entre un carrosse et un fiacre. Le carrosse, c'est celui de Sade à ses débuts. Quels regards ont pu s'échanger quand le jeune marquis s'est jeté brutalement hors de son siège pour lancer un coup de poinçon dans le ventre du cheval? L'aristocrate considérait-il aussi le peuple comme un animal? Et dans la cohue de la ville, comment l'oreille percevait-elle la cacophonie, le caquet des conversations qui cherchaient à se distinguer du tumulte de la circulation, tandis que retentissait parfois une trompette annonçant la lecture d'une ordonnance de police qui irait bientôt rejoindre le recueil des textes inapplicables? Réveillons nos cinq sens et entrons dans le peuple et les choses du Paris du XVIIIe siècle.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Arlette Farge, qui après de nombreux livres sur la rue à Paris, le peuple de Paris, publie Paris au XVIIIe siècle, le peuple et les choses, c'est aux éditions Bayard. Ce qui est formidable avec vous, Arlette Farge, je vous bonjour d'abord.
Bonjour.
C'est que, bon, évidemment, vous utilisez les classiques rétifs Mercier, vous utilisez les ordonnances de police, le fonds Lamoignon, des centaines d'ordonnances jusqu'en 1763, mais ce qui est formidable avec vous, c'est que vous aimez inventer l'archive, ouvrir des dossiers qui jamais n'ont été consultés, et des vies se jettent à votre visage.
Mais vous savez, dès que vous les ouvrez, ces archives manuscrites, bien sûr, qui sont conservées aux Archives nationales et qui concernent toutes les notes de police, tous les renseignements qu'on peut avoir sur la population, tous les accidents, toutes les disputes, toutes les querelles, tous les crimes, bien sûr, mais ça m'intéresse moins. C'est-à-dire tous ces petits faits de la vie quotidienne qui font que on est obligé d'aller quand même porter plainte chez le commissaire de police ou en tout cas de se disputer, d'essayer de résister à cette espèce de flot, de flux, de quelque chose que je crois on ne peut pas imaginer, même quand on dit aujourd'hui que Paris est immense, ce qui est vrai, il était déjà au 18e, 800 000 habitants, c'est beaucoup, que Paris est immense, que Paris est rempli de choses trappes, de circulation, etc. Mais le 18e, c'est pas ça, c'est un fourmillement, c'est plus qu'un fourmillement, c'est un tohu-bohu, ce sont des odeurs, bien sûr, mais ce sont aussi des sons absolument énormes, jusqu'à ce que on puisse lire comme témoignage dans les archives qu'un Anglais arrivé sur les collines de Saint-Cloud. Fasse retour, tellement il entend de bruit et voix de fumée, et dit « je retourne dans mon pays ».
Alors, on va aller vers Paris en partant de l'endroit où nous sommes. On nous dit qu'il faut faire de la radio visuelle. Bon, la radio visuelle, ça ne consiste pas à filmer nos trombines pour les mettre sur un écran. Ça consiste à faire naître des images aux oreilles des auditeurs. Ici, en arrière de nous, il y a la plaine Maillot, assez loin. Là. C'était une plaine à blé.
Alors, la plaine Maillot, c'est extraordinaire. Des champs de blé, immenses, évidemment, et qui sont une manne pour les travailleurs saisonniers, qui vont venir même de province pour pouvoir faire effectivement la récolte. Donc ça, c'est vraiment la campagne.
Sur les flancs de la colline de Passy, des lieux protégés, le château de la Muette, la villa, l'hôtel de la princesse de Lamballe, l'ambassade de Turquie aujourd'hui, la maison de Franklin. Mais j'aimerais que depuis ce studio, dont les vastes baies s'ouvrent sur la Seine, vous nous décriviez ce qu'il y avait en face. C'était pas encore Paris, c'était Grenelle. L'île aux cygnes n'était pas exactement au même emplacement qui est le sien aujourd'hui. C'est un endroit qui vous fascine d'ailleurs, cette île.
Alors je vais vous dire ce que je vois là pour le moment. C'est... aujourd'hui, cet après-midi, c'est d'énormes tours.
Bon. Oui, d'accord.
Et donc, mais... ça n'a absolument rien à voir, effectivement, avec ce qui existait à l'époque. C'est cette scène, d'abord, qui est meuble. C'est-à-dire, il faut bien savoir que ce n'est pas du béton. Ce sont des berges meubles extraordinairement fréquentées par toute la population parisienne. Et que vous faites allusion à cette île aux cygnes qui n'existe plus.
Qui est remplacée par une autre.
Qui a été remplacée, voilà. Et qui est un petit peu en amont, je crois, on dit, hein, de ce que nous voyons là du studio. Et qui a un destin quand même assez étonnant. C'est une espèce de bande de terre qui est très fine. Hein, qui est pas large du tout, c'est pas la cité, c'est pas l'île Saint-Louis, et qui a accueilli un nombre de choses dont peut-être c'est ça qui est intéressant, cette relation entre le peuple et les choses. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, tous les morts des massacres de la Saint-Barthélemy y ont été déposés. Mais il faut se rendre compte qu'on est très loin de Paris ici. Au XVIIIe siècle, j'entends bien. On est très très loin de Paris. Puis après, on y mettra les déchets. Et enfin, à la fin, on y mettra les bois dont on ne peut plus rien faire. Mais entre les deux, au XVIIe siècle, on y mettra les cygnes pour qu'ils puissent hiberner, d'où son nom, l'île aux cygnes.
Alors remontons, c'était votre invitation. Nous voici maintenant à ce qui était un port, le port du Gros Caillou.
Tenez, en face, c'est le quartier du Gros Caillou. J'y suis né. Jadis, quand les Nautonniers abordaient au port du Gros Caillou, venant de Mantes, de Rouen, et il y avait là un champ qui dévalait jusqu'à la Seine. Il ne s'appelait pas le champ de Mars, mais la plaine de Grenelle.
Et pourquoi l'appelait-on le Gros Caillou ?
Ah, mais le Gros Caillou a réellement existé. C'était un très gros rocher situé dans la plaine de Grenelle. On le fit sauter à la dynamite au XVIIIe siècle. La route est libre, des invalides au champ de Mars. Et le quartier s'appelle toujours le Gros Caillou. Tenez, le port était ici, enfin presque, parce que la Seine était bien plus large. Deux fois plus large au moins. Oh oui, vous voyez la plaine de Grenelle. En période de crue, elle était souvent inondée. Et quel trafic sur le fleuve. Oh, c'était Venise. Des bateaux dans tous les sens, pleins de bois, de pierres, de vin, de fourrage, de blé. Pour aller de Paris à Mantes, à Rouen, à Corbeil, à Auxerre. À cette époque, vous ne preniez pas la route, vous preniez le coche d'eau.
Les quartiers de Paris, une émission de télé de Jean-Paul Carrère, 1970. Ces bateaux, vous les décrivez? Alors, plein de blocs de glace qui viennent du massif central. Ou bien de braises de bois au fond, ou encore de pierres.
Et en plus des pierres, il y a cette chose absolument extraordinaire qui se passe au mois de septembre. Pour venir chauffer Paris, tous les grondins ou les troncs d'arbres qui viennent de province sont coupés. Et sont envoyés par la Seine, dans la Seine, pour arriver à Paris, où les ouvriers qu'on appelait du bois flotté, un joli terme, viennent les couper, etc., au prix de nombreux accidents, noyades, blessures, et choses de ce genre très misérables, et pour chauffer Paris. Vous parlez de pierre, bien sûr, il y a à la fois le plâtre qui arrive, il y a à la fois tout l'approvisionnement, il y a à peu près 7 ou 8 ports à Paris, chacun réservé à un approvisionnement spécifique. Et bien sûr, ça donne, si vous voulez, la Seine, c'est l'aorte. C'est vraiment l'aorte de Paris. Sans la Seine, il n'y a rien. Sans la Seine, il n'y a pas d'approvisionnement.
Mobilisons les 5 sens, indiquez-vous, Arlette Farge. Qu'est-ce que ça sent, la Seine ? Ça sent les déchets, on y jette un peu tout. Parlez même des fœtus abandonnés dans la Seine. Ça sent la craie aussi.
Ça sent la craie, ça sent J'allais pas dire des odeurs méphitiques. Ça sent l'odeur de tout ce qui s'y passe et tout s'y passe. C'est-à-dire que là, on a une population aussi bien d'ouvriers, bien sûr, mais aussi de prostituées, de petites cabanes pour les secours aux noyés, mais aussi de tous ces bateaux qui arrivent, des blanchisseuses qui sont là avec leurs cris stridents et qui battent à coups de battoir très, très, très sonores. Le linge qui les étend après dans des conditions totalement étranges, ou tout du moins pour elles naturelles, mais qui vont causer énormément d'accidents. Et puis vous avez aussi ces bateaux de charbon de bois qui vont aussi être utilisés pour le chauffage à Paris et qui vont devenir une espèce de, comment dire, des déchets dégoûtants, disons le mot. C'est pas un joli mot, mais je crois qu'il faut l'employer parce que le fond de ces bateaux remplis de braise qui sont accostés et qu'on laisse de côté vont finalement devenir une espèce de boue putride que énormément de petits ouvriers ou d'artisans vont vouloir quand même acheter pour en faire produit. Et donc on est là devant des odeurs, mais bon, Sans compter, à moins que je remonte trop, peut-être encore, sans compter les odeurs du cuir et du tanin qui sont dans la bière.
Oui, écoutez, je vous propose qu'on respire un coup et qu'on parle
Respirons.
Non plus de la Seine qui traverse la ville, mais des promenades qui trouent la ville. Il y a une vieille amitié de l'arbre et du Parisien.
Ah mais ça, c'est moi, vraiment, quand j'ai découvert ça, grâce à des rapports de police que j'ai trouvés aux Archives nationales du garde Federici, qui était garde des Champs-Élysées, un malheureux, j'allais dire, quelqu'un d'un malheureux garde suisse, je veux dire, quelqu'un de peu cultivé, etc., qui tenait son journal.
Ça a été publié au Mercure de France.
Voilà, et qui avait son âme là, sa passion là. Et qui raconte sa souffrance, mais c'est vraiment sa souffrance, de voir les arbres écornés, les écorces abîmées par les cavalcades des carrosses qui font attention à rien et qui vont abîmer les quinconces, qui vont abîmer cette promenade des Champs-Élysées toute nouvelle puisqu'elle ouvre en 1775, qui sera aussi bien, bien, bien ennuyée par tant de libertinage, tant de curés sous les buissons.
Respirons.
Des curés sous les buissons, pour moi, c'est normal. Enfin, donc, des curés...
Vous avez dit que c'est normal, oui.
Oui, c'est normal. Enfin, c'est vrai, quoi. Des curés sous les buissons, dans des positions qui sont... Normalement, du coup, vous m'intimidez, qui sont normalement réprouvés.
D'accord.
Et donc, Federici fait la chasse à ses curés et fait la chasse aussi, évidemment, aux homosexuels, aux filles de mauvaise vie.
Et si on revient à cet aristocrate qu'un jour il pince pour avoir accroché un arbre, un comte, et qui lui dit...
Ah oui, non, mais ce qui est formidable, c'est Federici, c'est sa dignité. Oui. C'est un homme, c'est rien, un garde suisse. Et il va absolument, qu'il soit devant un aristocrate ou non...
Et qu'est-ce qu'il lui dit, l'aristocrate? Il lui dit, mais monsieur, je ne suis pas fait pour être traîné devant les tribunaux.
Ah oui, c'est ça. Donc l'aristocrate se rebelle.
Je ne suis pas né pour ça.
Il lui dit, je ne suis pas né pour être traîné devant les tribunaux, ce qui n'impressionne absolument pas Federici.
Vous les voyez bien, les Champs-Élysées. Vous les avez dans l'œil. Eh bien, figurez-vous qu'en 1617, ce n'était que des bois touffus, abondamment peuplés de loups et de renards, et même aussi de sangliers. C'était la forêt de Rouvray, Roburet homme, forêt de chêne. Pendant une centaine d'années, de 1617 à 1717, l'aspect des Champs-Élysées ne se modifie guère. Pourtant, l'endroit étant devenu public, les gentilshommes s'y croisent avec les manants. Nous sommes au rond-point. Vers cette époque, on signale au rond-point l'établissement de la première guinguette. C'était bien peu de choses encore, mais c'était déjà quelque chose. Des gens venaient s'asseoir dans les Champs-Élysées, on commençait à s'y donner des rendez-vous, on s'y battait en duel.
Laissons passer deux ou trois ans. Nous sommes en 1764. Les Champs-Élysées n'ont déjà plus le même aspect. La forêt devient un parc et la route à présent devient une avenue. Rendez-vous de chasse, oui, presque. Et si l'on veut, on peut les appeler ainsi.
L'ouvrier travaille, l'écrivain rimaille, le fainéant baille et le savant dit. Le joueur avide, la mine livide et la bourse vide rentrent en fulminant. Et sur son passage, l'ivrogne plus sage rêve en son breuvage, oh, en chanfredonnant. Tout chez Hortense est en cadence, on chante, on danse, joue, etc. Et sur la pierre, un pauvre air, la nuit entière souffrit et pleura. Conversitaire, le solitaire, avec mystère dirige ses pas. La diligence part pour Mayence, Bordeaux, Florence, ou les Pays-Bas. Adieu donc mon père, adieu donc ma mère, adieu donc mes frères, adieu mes petits. Les chevaux hennissent, les fouets retentissent, les vitres frémissent, les voilà partis. Dans chaque rue, plus parcourue, la foule accrue grossit tout à coup. Grand belle taille, vieillard, marmaille, bourgeois, canaille, abonde partout. À quelle cohue ma tête est fendue, moulue et rompue, où donc me cacher? Jamais mon oreille n'eut frayeur pareille. Tout Paris s'éveille. Allons-nous coucher.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dans le Paris du XVIIIe siècle et sa mélodie chaotique de sons multiples, il n'arrivait qu'on entende à côté des chansons indécentes, des chansons aimables, celle de Désaugiers, date de la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, était interprétée par René Jean du Lapin Agile. Arlette Farge, Paris au XVIIIe siècle, votre dernier livre chez Bayard est sous-titré « Le peuple et les choses ». Et voilà que parmi les choses, il y a les animaux.
Oui, mais je sais que c'est pas... Je sais que l'animal n'est pas une chose, mais je sais aussi quelle place il tient dans la ville et je crois que, petite incise, les historiens se sont, c'est la mode maintenant, je sais, mais se sont assez peu intéressés à la vie animale. Les anthropologues sont en train de travailler beaucoup le sujet. Et finalement, cette vie des animaux s'est mise à me passionner. Et bon, c'est absolument inouï, si vous voulez, parce que d'abord il y a les chevaux, mais ce que s'imaginent au fond les gens à l'heure actuelle, c'est qu'il y a les chevaux des carrosses, donc ça c'est une chose normale, tranquille, si l'on veut, bien qu'ils dévalent à toute allure les rues de Paris et font beaucoup d'accidents. Mais il y a aussi les chevaux, que l'on amène de la campagne, les vaches, les moutons qui arrivent de Gonesse ou d'autres endroits.
Et les veaux qui accompagnent les vaches. Alors, vous racontez une histoire extraordinaire. C'est un garçon boucher qui accompagne un veau nouveau-né qui essaye d'avancer au rythme qui lui est imposé.
Voilà, c'est ça. Et il y a une sorte de malfaisance vis-à-vis des conducteurs de bestiaux, disons-le, à cette époque qui choque. Et c'est ça qui m'intéressait aussi.
Et alors, qu'est-ce que dit la voix du peuple, Lacan ?
Eh bien là, c'est vraiment...
Le garçon va trop fort.
Quand les garçons vont trop fort, une femme, à un moment, sur un animal beaucoup trop maltraité, lui dit très fortement, écoute, tue-le, mais ne lui fais pas mal. Et bon, ce sont une espèce d'indignation de la population devant les mauvais traitements. Ça peut paraître très neuf, hein, très neuf aujourd'hui, mais ça l'est pas. Alors que les Anglais à l'époque faisaient très attention. Et des ordonnances de police vont suivre les unes après les autres de deux ans en deux ans pour expliquer qu'il y a interdiction de maltraiter les chevaux. J'entends bien, hein, pas les chevaux de carrosse, mais les chevaux de trait, les charrettes, qui traînent les charrettes, etc. Mais il y a aussi des drôles de bêtes qui arrivent très régulièrement, deux fois par semaine, qui sont les dindons. Il faut pas qu'ils vont être arrivés pour être mangés, hein, enfin, c'est-à-dire tués puis mangés. Et puis il y a les chiens errants, bien sûr en quantité, mais aussi le chien de compagnie. Donc il y a des classes sociales dans les chiens, ce qui n'est pas inintéressant.
C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui toilettent les chiens pour
il y a des petits
les clients
chiens,
de l'aristocratie
savez,
ou de la bourgeoisie.
Quand ils naissent, on leur donne du whisky pour qu'ils ne... On leur fait boire du whisky pour qu'ils ne grandissent pas. Et ils sont dans les bras soit des aristocrates, soit de leurs femmes pour attirer, pour montrer, voilà.
Et je suis en train de regretter qu'on n'ait pas une radio visuelle où on vous voit. serrant un chien imaginaire.
Et plus cette diatribe contre ces femmes embrassant sans arrêt sur le museau des petits chiots et qui Bien sûr, ce sont des femmes forcément dépravées.
Des chiens du haut en bas, le tohu-bohu.
Le spectacle va commencer, et ce spectacle est unique. Pour ceux toutefois qui sont près de leur tour, pour les peintres, les ladres, les regardants, la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, la direction leur laisse Baptiste gratuitement.
Hé Baptiste, si tu fais des petits même à de côté, ce qu'il peut avoir l'air idiot, vous ne trouvez pas?
Moi je trouve surtout qu'il a de beaux yeux.
De beaux yeux? Ça lui fait une belle jambe. Oh, ma montre! On m'a volé ma montre! Ma montre en or! Au voleur! Au voleur! Mais c'est elle? Sûrement oui, c'est vous, j'en suis certain!
Mais laissez-moi, c'est pas possible, vous êtes fou!
Et elle m'insulte par-dessus le marché! Au voleur! Police! Sergent de ville! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Il paraît que monsieur avait une montre en or, maintenant il n'en a plus, il dit que c'est de ma faute! Pourquoi, mystère?
Mystère, oui! Et naturellement, vous êtes innocente.
Comme l'agneau.
Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez?
Sûr et certain? Arrêtez-la!
Et puisque je vous dis que ce n'est pas moi!
Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins?
Moi! Moi, je suis témoin!
Qu'est-ce que vous avez vu?
Tout. J'ai tout vu.
Arletty, Barrault, le film de Carnet, Les Enfants du Paradis. Bon, c'est plus exactement le 18e siècle, mais comme vous le citez dans votre livre, je me suis permis, avec Jacques Sigal, de choisir cet extrait. Et puis, on entend là des assauts de vertu qui montent de la foule. Ça rappelle une histoire extraordinaire que vous racontez, celle de l'exposition de Madeleine, 9 ans. Là, on est en plein 18e siècle, milieu du 18e siècle. Que paraît-il, un garçon marchand de vin avait violé et rendu enceinte. Alors, tout le monde autour d'elle, c'était des assauts de vertu.
Oui, alors c'est une histoire extraordinaire, trouvée dans les archives comme seules les archives peuvent avoir des secrets comme cela. C'est-à-dire une petite fille qui a 9 ans, qui revient chez elle et qui dit avoir été touchée par un jeune homme de 18 ans qui sera tout de suite mis en prison et dont la maman, très inquiète ou profiteuse, on le saura à la fin, se met à exposer sa petite fille. Tel un objet, c'est pour ça que je l'ai mise dans les objets, elle devient un espèce de monument. Elle est donc assise, assez en hauteur, devant l'immeuble pauvre d'une rue d'un quartier populaire, toute la journée à l'exposition du public qui vient voir comment cette petite de 9 ans, dite enceinte, va grossir.
La grossesse dure plus de 9 mois parce qu'il faut que l'exposition rapporte.
Voilà. Et il y a beaucoup de police. Et il y a cette chose phénoménale, c'est que les ducs, les duchesses, les marquises, les plus connues de l'époque, vont venir garer leur carrosse à cet endroit-là, regarder si cette grossesse intervient et cette petite est immobile. Elle est visitée comme un monument. À côté d'elle, il faut quand même reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle une sébile et on met un petit peu d'argent. Bien sûr, un bébé ne viendra jamais. Mais ce sont ces... comment dire ? Ces événements-objets, elle devient un objet. Et la mère, finalement, prise quand même au bout d'un moment, ça devient un petit peu long, partira effectivement en prison, culpabilisée pour...
Vous parlez des carrosses qui viennent voir Madeleine, les escarpins,
oui,
ne craignent pas la boue.
Croirais-tu que cette grande ville, dans un siècle aussi éclairé que le nôtre, n'a pas ses conduits souterrains pour égoutter ses eaux? À la moindre pluie, allait un marais d'immondices et en tout temps, l'homme à pied est éclaboussé par un limon gras et noir, produit des urines et des lavures que lancent de droite et de gauche les pieds des chevaux et les roues des voitures. Les maisons n'y ont pas de canaux pour conduire à terre les eaux des pluies. Un échené saillant jette à flot l'égout des toits et trempe encore les passants longtemps après que le ciel est serein.
On ne sait pas au juste à quelle époque l'industrie enfanta l'art du décrotteur, si nécessaire de nos jours dans cette sale et grande ville. On a beau marcher sur la pointe du pied, l'adresse et la vigilance ne garantissent point des éclaboussures. Souvent même, le balai qui nettoie le pavé fait jaillir des mouches sur un bas blanc. L'utile décrotteur vous tend au coin de chaque rue une brosse officieuse, une main prompte. Il vous met en état de vous présenter chez les hommes en place et chez les dames. Car on passera bien avec l'habit un peu râpé, le linge commun, le mince accommodage. Mais il ne faut pas arriver crotté. Fût-on poète ?
C'est une question d'honneur. C'est un texte de Mercier, lu par Frédéric Cantrel. Et le précédent, c'est un texte de Rétif de la Bretonne. Il y a quand même des choses innommables, des choses qui sont insupportables. Dans Rétif de la Bretonne, il y a ce personnage de l'homme qui dort sur les ordures. Qu'est-ce qui est insupportable ?
Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à une idée reçue, tout le monde sait que le 18e et le Paris du 18e, c'est un chaos, c'est la foule, c'est les hôpitaux sordides, c'est les prisons terrifiantes, c'est la Bastille, etc. Mais ce qu'on sait moins peut-être, c'est l'insupportable, c'est-à-dire comment une population, je ne parle pas des aristocrates parce que, curieusement, entre guillemets, ils ne voient pas ou peu. Ou lorsqu'ils voient, ils sont fascinés et partent dans les bouges pour un petit peu se récréationner, si le verbe existe. Mais ce qui m'a passionné, je crois, dans cette relation entre le peuple et les choses, c'est de voir que tout n'est pas admissible. Même si on est sujet du roi, qu'on est au XVIIIe siècle, que la police est là, toujours présente, pas toujours efficace, c'est qu'il y a des choses qui sont terrifiantes. Je pense à une chose, surtout celle qui existe rue du Roi de Sicile. Vous voyez, c'est une rue qui est pas loin de Saint-Paul à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui longe la Seine et qui est dans le Marais, qui longe de l'hôtel de ville jusqu'au Marais, où étaient tous les écarisseurs, c'est-à-dire tous ceux qui, tuaient les bêtes et où les excréments, les viscères se répandaient absolument partout, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec des eaux de Seine qui remontent, bien sûr, et qui vont sur les rives et de patauger dans la mort, qu'elle soit d'un animal ou pas, dans des monceaux de cadavres, dans des fœtus aussi qui sont là, qu'on a abandonnés. Personne ne le supporte. Et je crois qu'on a trop souvent dit que le XVIIIe siècle avait tant souffert, comme d'autres siècles, avait tant souffert qu'il avait l'habitude de souffrir. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans cette relation entre le peuple et les objets, c'est de voir comment la population va soit pacifier avec les objets, soit être répulsif, s'indigner et se plaindre.
Merci à vous, Arlette Farge, Paris au XVIIIe siècle, Le peuple et les choses. C'est un nouveau livre sous votre signature avec le style qui est le vôtre aux éditions Bayard. Dans un instant, au programme de Mathieu Vidard.
Les effets du stress sur la santé, Jean, tout à l'heure.
Merci. L'émission a été réalisée, je l'ai dit, par Jacques Sigal avec Serge Viguier à la technique, Frédéric Martin, Franck Olivard et Ilinka Negulesco pour la préparation.